RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
C'est avec les GG que vous prenez la parole. Et oui, nous sommes de retour en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT. Le trio de GG qui vous accompagne aujourd'hui en ce 10 août. Florent Guébali, entreprenant la transition écologique. Charles Consigny, l'avocat. Et l'entrepreneur Emmanuel Devilliers. On attaque la deuxième heure des GG. Pas mal de sujets de discussion qui vont vous faire réagir, je n'en doute pas. Les trottinettes, casques et gilets fluo qui deviennent obligatoires à Paris en petite couronne. Est-ce qu'il faut l'étendre à toute la France ? La lettre de Gérald Darmanin qui provoque la colère des policiers, vous savez, à propos des violences sexuelles, cible le travail des policiers, le garde des Sceaux, dans ses affaires. Il parle de dossiers fantômes par milliers, de plaintes qui n'ont pas été instruites, qui n'ont pas été transmises. Il fâche les policiers. Est-ce que Gérald Darmanin, justement, est en train de s'acheter la paix avec les magistrats en pointant du doigt les policiers? Vous venez en parler avec nous au 32-16. En attendant, on va évoquer une piste, celle de taxer les retraités pour pouvoir boucler un budget. C'est le journal du dimanche qui nous révèle ça. En fait, si l'on en croit donc le JDD, les retraités... Une partie des retraités serait dans le viseur du gouvernement avec le fameux principe de la désindexation des retraites à partir du certain niveau. En fait, du côté de Bercy, du ministère de l'économie, on regarde ce que l'on appelle la dynamique des dépenses. Et pour les pensions, elle augmente de 7 milliards d'euros par an. 7 milliards, c'est plus que la moyenne européenne. Si on ne fait rien, dit-on à Bercy, c'est ce que nous raconte le journal du dimanche, si on ne fait rien l'année prochaine, la charge des retraites va augmenter de 12 milliards d'euros supplémentaires. Donc, l'indexation sur l'inflation à elle seule, c'est un surcoût de 6 milliards d'euros. C'est-à-dire, vous savez, c'est la fameuse année blanche. C'est-à-dire, on dit... On touche pas, voilà, on indexe pas les pensions sur l'inflation. Les petits retraités seraient épargnés, ainsi que le minimum vieillesse. Il faut rappeler que l'enveloppe de santé en France et les retraites, on est à plus de 400 milliards hein, aussi. Donc voilà, c'est quand même une jolie enveloppe. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut taxer les retraités les mieux lotis ? Il ne faut pas indexer sur l'inflation. 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Je sais que ça va vous faire réagir, monsieur Emmanuel Devilliers.
Bah écoutez,
politiquement, on sait que c'est toujours délicat. Hein.
Mais tu l'as laissé entendre, je vais le préciser, le coût est majeur et contribue à la menace d'asphyxie de notre République française. Asphyxie financière avec, au bout du chemin, ce qu'on appelle dans l'entreprise la cessation de paiement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus le financement des dépenses qu'on doit assumer en temps réel. Dans une entreprise privée, tous ceux qui nous écoutent le savent, quelle que soit la taille de l'entreprise, le poids des salaires en France est colossal de par les charges. Donc quand on gère une PME, par exemple, comme je l'ai fait pendant 30 ans, de 30, 40, 50, 100 salariés, l'indiciation annuelle, qui correspond donc à cette notion d'indiciation des retraites, est quelque chose de crucial. Parce que en adoptant une politique un peu plus fine, vous pouvez dégager des moyens très importants en publicité, en innovation, y compris en investissement, qui vont contribuer à la poursuite de l'épanouissement de l'entreprise. Donc en l'occurrence, de 2022 à 2026, soit sur 5 ans, période très courte, hein, l'augmentation du coût des retraites en intérêts composés a dépassé 15%. 15% de plus, donc on est en dizaines de milliards. Donc effectivement, il y a un problème majeur. Ce sont les charges fixes de l'État qui le plombent. Et comme en démocratie, si on se présente avec des mesures qui ne sont pas plaisantes, on ne peut pas être élu. On est dans un toboggan. Alors la pente est très forte quand on est en 80 avec Mitterrand. Elle est moins forte ensuite avec François Hollande, encore que. Elle est encore un peu moins forte peut-être à certains égards depuis 10 ans avec Macron. Mais le toboggan continue et on s'enfonce vers le gouffre.
Mais est-ce que c'est à ceux qui ont travaillé toute leur vie, tu vois, qui aujourd'hui jouissent de leur retraite, de se dire j'ai déjà bossé, même si ce sont les actifs hein, qui payent pour les retraités. Alors, après, sauf oui, la partie pas. Qui a été capitalisée, non, bien
s'agit,
sûr.
Il s'agit
ils se disent,
pas.
Mais bon Dieu, pourquoi ça tombe sur moi?
La réflexion, en l'occurrence, c'est au gouvernement de décider, évidemment, qui a l'ensemble des manettes et des cartes en main. Mais il ne s'agit pas d'amputer les retraites. Il faut quand même avoir un discours qui soit pas anxiogène. Il ne s'agit pas de massacrer les retraites. Il s'agit de voir est-ce qu'on peut moduler une indiciation sans doute relativement favorable, même si le coût de la vie progresse, tel que de 15% depuis 5 ans, pour avoir un minimum d'oxygène et éviter cette descente qui peut nous mener, encore une fois, à une situation de la France où on ne pourra plus faire face aux dépenses de l'État.
Laura Guébali.
La folie, c'est de faire exactement la même chose et de s'attendre à un résultat différent, comme dirait l'autre. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de tenter de résoudre une équation impossible. L'équation impossible, c'est quoi ? La dette et le déficit explosent, il faut faire des économies. Ok, on a compris, Bayrou est passé par là, on a tous entendu le message. Deux, il faut quand même aller taxer un peu côté retraite. Sauf qu'on sait que à la fois le système tient pas la route, qu'il va s'effondrer, voire qu'il est déjà en train de s'effondrer. Deux, que c'est un traumatisme français. Les manifestations de 2023 ont été celles qui ont mis le plus de Français dans la rue de ces 50 dernières années. Donc, on sait très bien que l'opinion publique suit pas, que c'est un traumatisme français. On sait que cette histoire de départ la question de l'âge, elle est complètement folle. Et on sait aussi, excusez-moi de le rappeler, que c'est les personnes âgées qui votent. Donc, 8 mois avant une présidentielle, s'attaquer aux personnes âgées, il n'y a aucun politique qui va aller au bout. Ils sont pas débiles non plus, donc ils le savent. Donc, à un moment, on arrête la folie et on prend une mesure radicale. Pourquoi ? Parce que à situation dramatique, mesure radicale.
C'est laquelle, la mesure
et la
radicale.
Mesure radicale, c'est quoi ? C'est le revenu universel pour tous les Français, quel que soit l'âge. On donne 700 euros à tout le monde du début à la fin de la vie. On arrête avec les retraites et après, chacun capitalise comme il le souhaite, chacun économise comme il le souhaite et on transforme les finances publiques françaises. Et en fait, en faisant ça, on fait baisser et la dette et le déficit, mais radicalement. Tous les think tanks le montrent, que ce soit des think tanks de gauche comme de droite, comme des think tanks ultralibéraux. En fait, ça fait l'unanimité chez les experts. Donc tous les experts sont d'accord. Par contre, le pire dans cette mesure, c'est quoi ? C'est qu'on va chercher un petit bout d'un petit quelque chose. Je pense que même Charles sera d'accord avec moi. On transformera pas une situation dramatique en allant chercher des petits bouts de gras ici et là, des petites choses. Le seul truc qu'on est en train de faire, c'est de complexifier encore des systèmes qui sont déjà kafkaïens et dramatiques.
Mais, sauf que le gouvernement, il a un budget à boucler à la rentrée. Tu comprends? Et pour ça, il va falloir qu'il donne des gages politiques. Alors là, c'est ce qu'on appelle, tu sais, le petit ballon d'essai. C'est-à-dire, on fait fuiter dans la presse au cœur de l'été. On voit un peu comment ça réagit ou pas. Et de qui va avoir besoin le gouvernement de Sébastien Lecornu aussi? Il va avoir besoin de la gauche. Donc, en disant, attention, on va pas toucher les petites retraites. On va pas toucher le minimum vieillesse. En revanche, ceux qui ont plutôt les moyens. Donc, tu vois, on commence à retourner vers le Parti socialiste.
Tu sais ce que ça donne à la fin? À la fin, ça donne. On va créer un comité d'examen des retraites.
C'est possible
où
aussi.
On va recruter 400 fonctionnaires. Alors ça, pour le coup, ils le font, ça. Je suis d'accord. Mais par contre, on va faire aucune économie.
Charles Consigny.
Ça va donner aussi des retraités qui vont se barrer à l'étranger.
Charles Consigny.
Non, mais les retraites, c'est un sujet énorme en France. Le vrai sujet sur les retraites, c'est l'âge de départ. C'est que les Français prennent leur retraite trop tôt. On peut pas continuer avec un système où il y a des gens qui partent à la retraite à 62, 63 ans. C'est trop jeune. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est beaucoup trop jeune et ça coûte beaucoup trop cher. Et ça fait qu'il y a beaucoup trop de retraités qui ne sont pas contributeurs nets au système. On les entend dire « oui, mais j'ai cotisé toute ma vie ». Sauf que très souvent, ils n'ont pas du tout cotisé à hauteur de ce qui coûte ensuite en retraite. Celui qui a cotisé autant que ce qu'il va coûter ensuite en retraite au système des retraites, il est rare dans le lot des retraités. Vous avez une très grande majorité de retraités qui perçoivent beaucoup plus dans leur vie que ce qu'ils ont cotisé. Et d'ailleurs, il y en a qui croient avoir cotisé largement ce qu'il faut et qui s'illusionnent totalement.
Mais tu sais qu'il y a deux choses, puisque quand tu dis tu cotises pour ceux qui sont à la retraite. Là, en ce moment, nous...
Moi, je te parle des gens...
Et là, tu parles de la cotisation pour en capitalisation.
Voilà, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de nos retraités s'illusionnent. Voilà. Se berce d'illusions en se disant « j'ai tellement cotisé dans ma vie, j'ai bien le droit de prendre ma retraite ». Et en fait, si tu prends le volume de leur cotisation, souvent on commence dans la vie avec un salaire qui n'est pas très élevé. Je parle même ceux qui sont devenus classe moyenne supérieure, qui ont augmenté leur salaire dans leur vie. Bah, vous avez quand même toute la première partie de la vie professionnelle dans laquelle la cotisation est faible. Un smicard, par exemple, sa cotisation retraite, c'est autour de 150 euros par mois. Ça va pas chercher beaucoup plus loin. Donc, quand il percevra sa retraite, il va pas être contributeur net. Et en fait, c'est valable pour la majorité des retraités en France. Donc, c'est un sujet énorme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, ce système, il est porté par deux choses, deux piliers. Un, Nicolas. Donc, Nicolas, 30 ans, qui lui casque, alors là, beaucoup plus que ce qu'il va percevoir, qui est vraiment la vache à lait du système, le cadre supérieur, qui se fade, de bosser après le dîner, si tu veux, voilà. Et deux, la dette, les générations futures. Personne ne peut contester ce que je dis là. C'est arithmétique. Donc, c'est un énorme sujet. Moi, ce que je pense, c'est que si on est courageux et réaliste, on passe la retraite à 70 ans. Ça hurle, ça gueule, le pays est complètement aux fraises, les socialistes sont totalement à la ramasse, ils sont contre ça, ils voient pas que les Chinois sont en train de nous rouler dessus au sens propre du terme avec leurs bagnoles qui écrasent nos industries automobiles et dans tous les autres domaines. Mais s'agissant des retraités actuels, je vais vous dire, je pense que le problème est tellement énorme qu'on demande un petit coup de pouce à certains, si c'est bien fait,
ça
etc.
Choque pas.
Ça va pas me faire monter au plafond, si tu veux.
Ça va pas te faire descendre dans la rue.
Si c'est désindexé le machin, voilà, ça va pas me faire descendre dans la rue. Si c'est désindexé telle retraite sur l'inflation et tout.
Oui, mais
ce que je pense vraiment, je termine par là, c'est qu'il faut baisser les dépenses publiques et que c'est le seul.
Dire, sauf que c'est pas une réforme.
Mais baisser les dépenses publiques.
C'est juste permettre à Sébastien Lecornu.
C'est passer à 70 piges la retraite.
Et c'est juste
bien sûr, c'est que Lecornu doit passer l'hiver.
Voilà, Lecornu doit passer l'hiver et faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne soit pas dans la tourmente et puisse passer et puisse aller tranquillement
jusqu'à l'élection de Marine Le Pen. Bravo, beau succès.
70 ans, ça serait idéal, mais c'est sans doute quand même inaccessible politiquement.
Mais je suis pas d'accord.
Malheureusement, et il faut par contre aussi privatiser la santé en France, parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça, puisqu'on a un système public qui est censé être formidable, mais quand on est malade, on peut plus se faire soigner. Maintenant, faut arrêter, et rien n'est plus important que la santé. Il faut que chacun paye pour sa santé.
Si justement tout le monde peut se faire soigner, en revanche,
mais les urgences sont engorgées, on peut pas avoir
Justement,
spécialiste.
Tout le monde
la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On paye pour sa santé. On arrête avec ce système communiste de l'après-guerre qui est complètement ridicule.
Emmanuel, il voit des communistes partout en ce moment.
C'est un système communiste.
C'est un système qui est né en place après la sécurité sociale.
La sécurité sociale, mais c'est un gag.
Et Laurent, qui est avec nous, qui nous appelle de l'Indre. Bonjour Laurent.
Bonjour Evangel.
Que pensez-vous de cette piste du gouvernement alors?
Enfin, peut-être que ça va aller au bout. J'en suis pas sûr non plus encore. Parce que à chaque fois, on fait des annonces et puis ça, il suffit que ça gueule un peu à droite ou à gauche et puis terminé, tout le monde s'écrase. Mais à un moment donné, les 3000 milliards de dettes là qu'on a actuellement, ils ont bien été aussi un peu creusés par les retraites. Parce qu'on n'avait pas le pognon des contribuables pour payer toutes les retraites. Donc, à un moment donné, qui ne participe à juste chose à diminuer cette dette, ça me paraît la moindre des choses. Les 10% d'abattement fiscal pour les retraités, mais c'est une injustice totale par rapport à ceux qui travaillent. Parce que là, on dit, oui, alors, faut augmenter l'âge de départ à la retraite. Pas de souci. J'ai 56 ans. S'il faut aller bosser jusqu'à 64 ans.
Oui, mais vous êtes agriculteur. Vous êtes à votre compte. Donc, vous bosserez...
peut-être pas quand même. Mais mettons, mais ça c'est pas un problème. Mais arrêtons de toujours taper sur ceux qui bossent aussi. Qui c'est qui les finance, les retraites, c'est ceux qui bossent.
Oui, c'est ça, c'est les actifs, ouais.
Et les retraités, il me semble qu'ils ont un pouvoir d'achat actuellement plus important que ceux qui bossent. Bah, c'est peut-être pas tout à fait logique, ça, quand même. Qu'ils aient le même, ça me perturbe pas. Mais qu'ils aient un peu plus. Non, que les retraités actuellement, moi, j'en connais un paquet, ils sont propriétaires, et la baraque, elle est payée. Maintenant, les retraités, quand ils vont, les futurs, là, et ben, le pourcentage de propriétaires de leur maison, il va sacrément diminuer, quoi. Donc, à un moment donné, il faut peut-être rééquilibrer les choses entre le monde des retraités et le monde du travail.
D'accord.
C'est simplement ça. Qu'on augmente la retraite. Pourquoi pas, qu'on augmente la durée pour avoir la retraite, pourquoi pas, mais il faut que les retraités, ils aient aussi leur contribution. Aussi,
oui, mais vous voyez, ils contribuent d'une autre manière aussi, les retraités, parce que aujourd'hui, tout du moins, là, ceux qui sont dans le collimateur du
et
gouvernement,
ils consomment déjà.
Ceux qui sont aisés, voilà, ils consomment, sont eux qui partent en week-end, qui de temps en temps aident aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est eux qui sont dans le milieu associatif, vous voyez, c'est eux qui s'ouvrent, vers qui on se tourne de temps en temps pour dire, tiens, tu peux pas me donner un petit peu d'argent, là j'ai du mal à boucler les fins de mois, on parlait des fins de mois tout à l'heure, ils sont là les retraités, heureusement, vous voyez Laurent.
On augmente, alors on va chercher de l'argent sur les marchés financiers mondiaux pour donner de l'argent aux retraités pour qu'après ils consomment en France. Il n'y a pas un problème là.
Alors attendez, Laurent, je voudrais qu'on écoute Carole qui est avec nous, qui est du côté de Haute-Savoie. Bonjour Carole. Bah, vous avez le même âge que Laurent, pardon, je donne votre âge, 56 ans. Et alors vous êtes en colère, enfin vous êtes courroucé.
Oui, alors bonjour Alain.
Bonjour Carole.
Tout le monde. On s'est déjà rencontrés, j'ai aussi rencontré Charles. Ça a été une très très belle rencontre d'ailleurs. Et je vous remercie de me prendre à l'antenne parce que ce n'est pas la première fois que j'appelle. Alors oui, quand vous parlez de colère, oui, il y a une certaine colère parce qu'on s'en prend toujours aux retraités. Mais les retraités, ils ont travaillé. Les retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Les retraités, ils ont créé des emplois. Les retraités ont participé à l'économie. Et à l'heure d'aujourd'hui, on s'en prend à eux. C'est tous les 15 jours que le sujet revient, à peu près. Là, pendant l'été, ça s'est calmé. Tout le monde était en vacances. Mais là, c'est un petit peu reparti sur ce mois d'août. Il y a peut-être un petit problème de gestion de l'État, non ? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un pavillon à 50 millions. Mais cet argent, ils vont le prendre où ?
Dans les réserves de l'Assemblée.
D'argent. On nous dit que... Mais cet argent, ils vont le prendre où ? Aux retraités ?
Oui, mais aujourd'hui, regardez, Carole, l'essentiel des ponctions, des ponctions pour nourrir l'État, elles pèsent sur les actifs aujourd'hui.
Mais je suis tout à fait
d'accord,
Alain.
Donc, est-ce que à ce moment-là, on se dit là, peut-être pour un temps, peut-être pour un an, ou pour faire des économies, sur, de toute façon, ce sera juste sur l'exercice du prochain budget, est-ce qu'il n'est pas temps de dire à certains retraités, ceux qui sont les plus confortables, on va dire, allez, vous donnez un petit coup de main et ça fait une économie de 7 à 11 milliards d'euros. Marquez, vous allez me dire, c'est pas pour autant qu'on va alléger ceux qui travaillent, mais ça renflouera un peu les caisses de l'État.
C'est pas baisser les retraites encore une
fois. Non, c'est pas, c'est les désindexer.
C'est l'indexation. Pour fixer le débat, Carole, d'un seul mot, et vous allez me croire sur parole, Carole. Pendant une émission de grande gueule, la dette française augmente de 100 millions d'euros par minute, 575 000 euros par seconde, 9 500 euros.
T'es sûr de tes chiffres,
oui,
là?
Oui, certains de mes chiffres, oui.
D'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Philippe.
Donc on est dans un gouffre. Mais on est en train de s'asphyxier, la France.
Mais je suis tout à fait d'accord, Philippe. Mais la faute à qui? C'est quand même la faute à cet État qui gaspille notre argent, qui ne le distribue pas là où il faudrait qu'il soit distribué. Il y a un problème aussi, Charles l'évoque aussi assez régulièrement, l'âge de la retraite.
Il faut plus d'âge de la retraite. Là aussi, il faut arrêter avec l'âge de la retraite. Ce qui compte, c'est la durée de cotisation. Et puis, un moment de votre vie, vous vous dites, tiens, j'ai 59, 60, 64. Vous regardez combien de temps vous avez cotisé. Vous voyez quel est le montant de votre retraite. Après, il faudra définir les secteurs et la pénibilité. Vous regardez, vous dites, c'est bon, je peux m'arrêter. Mais Carole, on va continuer la discussion avec Serge, qui est du côté de la Charente-Maritime. Bonjour, Serge.
Bonjour les Grandes Gueules.
Bonjour, bienvenue Serge. Qu'est-ce que vous en dites, vous Serge, alors de cette idée qu'a le gouvernement, si l'on en croit le JDD, dites-moi.
Alors moi, je n'en pense que du bien, mais ça fait 2 ans que je dis la même chose. Je suis un petit retraité qui a toujours été prêt à donner un petit coup de main. Et donc, il n'y a aucun problème. Désindexer des retraites de 3 000 euros, moi, j'ai 1 600 euros de retraite. Donc, mon épouse a un petit peu 1 000 euros. Enfin, vous voyez, on est des retraités modestes. Donc, on arrive à vivre à peu près normalement. Donc, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre que ça ne se fasse pas naturellement, je veux dire. Je ne comprends pas. Et alors, ce qui est étrange, c'est que les gens raisonnent en capitalisation alors qu'on est en répartition. C'est-à-dire, quand je parle aux gens de mon âge, je leur dis mais attendez, faut que les retraités participent. Ah ouais, mais moi j'ai cotisé. Mais j'ai dit non, tu n'as pas cotisé pour toi. Tu as cotisé pour tes parents et ce sont tes enfants qui cotisent pour toi. Donc on raisonne capitalisation et alors un système de répartition. Donc tant qu'on sera comme ça, on n'en sortira pas. Vous avez parlé de l'âge de la retraite, effectivement. C'est complètement absurde parce qu'un jeune qui a fait 5 ans d'études, il part. Non, c'est complètement absurde. Il faut effectivement des années de cotisation. Et dernier point, et je le dis depuis 2 ans, on vide les caisses de l'État, l'État emprunte sur les marchés internationaux et on a 6 500 milliards d'épargne en France.
Oui.
6 500 milliards
d'épargne. Vous n'allez pas taxer les épargnants, là.
Alors, je ne veux pas taxer les épargnants, je veux leur faire gagner de l'argent. C'est-à-dire que moi, mon idée toute simple, c'est que ces gens qui sont les épargnants, eh bien, on leur emprunte à eux. à eux. On emprunte à 3% alors qu'ils ont, ils ont des épargnes à 1,5, 1,6%. Ça veut dire que mon idée, c'est qu'on contribue, que les gens qui ont des, qui ont de l'épargne, ouais, contribuent à payer la dette. Et, à votre avis, ça représente combien?
Oui, mais ça fait encore de l'emprunt. Ça fait encore de l'emprunt. Oui, d'accord, mais on ne parle pas d'économie, comme le disait Charles tout à l'heure. C'est plutôt d'économie qu'il faut parler aujourd'hui.
Oui, mais vous empruntez.
Oui, je comprends.
Au lieu d'emprunter sur les marchés internationaux, dont 20%, c'est pas d'où vient l'argent, d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est très sérieux comme histoire. Je veux bien savoir où, enfin, bon, passons. Mais je veux dire que les retraités doivent contribuer à ce que tout aille mieux dans ce pays. Et ils s'y retrouveront de toute façon.
Oui, mais Serge, le problème aujourd'hui, c'est que à chaque fois que l'on on parle de ces mesures, de ces désindexations ou de ces taxes ou quoi que ce soit, à aucun moment on ne parle d'économie d'échelle. Avec des enveloppes qui se montent en centaines de milliards d'euros. Je rappelais les dépenses, ne serait-ce que l'enveloppe de la dépense sociale. Aujourd'hui, je vais la retrouver, c'est 330 milliards d'euros. L'enveloppe de santé. Vous voyez, tiens, il y a un député là qui a touché aussi à un sujet qui est compliqué, c'est Philippe Juvin. Je crois que c'est Philippe Juvin dans une note qui dit il faudra peut-être penser, réfléchir, le député LR et qui est aussi médecin, il dit il faudra réfléchir peut-être à fermer des petites structures hospitalières. Je peux vous dire que ça, ça aussi, vous allez voir, vous allez toucher à un tabou.
Moi, je ne sais pas s'il faut... Non, mais en revanche, je ne vais pas me répéter d'émission en émission, mais vraiment, j'invite ceux qui n'ont rien d'autre à faire à stationner une heure dans une pharmacie. Ils comprendront le problème de la sécurité sociale. Je veux dire...
Oui, mais on est dans une population qui va vieillir.
Non, explique-moi, moi, je comprends pas.
Ah, bah, il suffit de... Bah, tu te pointes une heure dans une pharmacie.
Et tout est remboursé.
Tu vois les caisses se vider en temps réel. C'est-à-dire que les gens viennent, achètent tout et n'importe quoi, ça leur coûte 1,40€, et ça dure comme ça toute la journée dans toutes les pharmacies de ce pays. Je suis désolé pour nos amis pharmaciens que j'aime beaucoup, mais c'est quand même une réalité. Donc moi, je pense que sur tous ces sujets, il faut faudra un moment avoir un peu de courage, pour pas dire pire. Il faut accepter... Regarde, on parle de l'histoire des fournitures de rentrée scolaire. Le gars qui supprime la fourniture publique des cahiers et des crayons, c'est un nazi aujourd'hui. Donc forcément, comment veux-tu que la dette n'augmente pas dans les proportions que dit Emmanuel de Villepin?
Merci à Laurent, à Carole et à Serge d'avoir été avec nous. Le gouvernement réfléchit à taxer les retraités, d'accord ou pas? On va voir ce que vous en dites. Vous dites non à plus de 68%. Dans un instant, polémique entre le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ancien garde des Sceaux, et les policiers. En fait, il les accuse, vous savez, dans l'affaire des violences sexuelles consécutives à la mort de la petite Liana. Il les accuse de ne pas avoir fait leur travail. Dossier fantôme, enquête à l'abandon pour les forces de l'ordre. C'est une trahison. On en discute ensemble au 32-16.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Charles Consigny, Emmanuel Devilliers et Flora Guébali. On va regarder ce que c'est que cette histoire de dossier fantôme et d'enquête à l'abandon. C'est un document qui a été adressé par la chancellerie, par le ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, à Laurent Nunes, le 29 juillet. Alors, ce dossier a fuité. Le garde des Sceaux, c'est donc Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur lui-même, qui dénonce, après l'affaire Liana, vous savez, la mort de la petite fille par un homme qui était suivi par les services de justice, il dénonce l'existence d'un gigantesque stock fantôme de procédures non transmises par la police et la gendarmerie dans les histoires de violences sexuelles. Alors, il y a quelques exemples comme ça qui sont sortis. À Nîmes, par exemple, les procureurs auraient découvert 1275 procédures dites fantômes. À Caen, elles seraient plus de 900. À Agen, il n'y a pas le chiffre, mais on dit un nombre important de procédures en cours qui n'a donné lieu à aucune information du parquet. Dans d'autres communes, on a des procédures qui ont purement et simplement été perdues. Vous vous souvenez que dans l'affaire Liana, il y avait eu un défaut de transmission d'un parquet à l'autre. Il y avait un problème aussi de localisation de la plainte. Donc en fait, ce qu'est en train de dire aujourd'hui Gérald Darmanin au garde des Sceaux, c'est si tu veux que les enquêtes soient menées par la justice, eh ben fais en sorte que du côté de ceux qui prennent les plaintes, eh ben le boulot soit fait. Alors est-ce qu'il a raison dans l'affaire des violences sexuelles ou des violences sur mineurs? Est-ce que ce sont les policiers responsables? Du côté des policiers, on a poussé un coup de gueule en disant écoutez, vous n'avez qu'à simplifier la procédure pénale, créer des places de prison, arrêter surtout de faire de la communication et nous on fera bien notre boulot. Emmanuel.
Gérald Darmanin est quelqu'un d'agile, de véloce.
C'est un politique.
Il retombe toujours sur ses pieds. Mais là, c'est quand même un peu difficile, son sketch, là. Parce qu'il était ministre de l'Intérieur pendant 4 ans. Et il vient dénoncer l'échec de ce dont il avait la responsabilité. C'est tout à fait extraordinaire. Et il manque pas de culot, quand même. Et en plus, il est copain avec Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur. Quand on les voit comme ça dans des scènes de rencontres, ils s'embrassent. C'est vraiment sur le dos des Français parce que cette inefficacité, ils sont au pouvoir quand même depuis 10 ans. Alors, je ne dis pas que c'était facile, évidemment que c'est très compliqué, il y a un problème de moyens, il y a un problème de juge rouge et de volonté de ne pas condamner. On le voit aussi avec quelqu'un qui a été libéré un week-end alors qu'il est très très dangereux par un juge, contrairement à...
Oui, c'est un... Il est lié à la macro-mafia, oui. Trafiquant de drogue. Il est sous OQTF, il a été autorisé à sortir de prison pour le week-end pour aller voir sa sœur.
Il peut être sévère et prétentieux, mais Monsieur Darmanin, il pourrait graver là sur la porte de son bureau la phrase de Jean Cocteau, l'esthétique de l'échec est la seule durable.
Charles, toi l'avocat.
Non, effectivement, c'est...
Est-ce que c'est la faute des policiers ou pas?
Non, mais c'est le bilan de cette famille politique aussi, comme le dit fort bien Emmanuel. C'est-à-dire que c'est cocasse de faire son propre procès. Effectivement, Darmanin, là, il fait quand même son propre procès, parce que c'est lui qui était ministre de l'Intérieur assez longtemps sous cette double mandature. Donc, moi, je pense qu'il y a surtout, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, tout ça, ce sont des administrations, et pardon d'être sur mes marottes, mais les 35 heures ne peuvent pas permettre de fournir un service correct dans aucun domaine. On le voit à l'hôpital, on le voit dans la justice, on le voit dans la police, on le voit dans l'école, on le voit partout. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas faire tourner une entreprise ou un service public quand les gens se barrent à 16 heures. Ça ne marche pas. Ça, c'est un premier sujet que moi, j'ai vu abondamment dans la justice. Deuxième sujet, effectivement, c'est que je pense que les services de police sont assez engorgés, il faut dire, par les dossiers. Il y a certains dossiers qui apparaissent peut-être plus urgents immédiatement que d'autres quand il s'agit de retrouver quelqu'un, quand il s'agit de lutter contre un crime ou un délit qui est en train de se commettre et où il faut se projeter très vite sur les lieux. Tout le travail qui est fait pour lutter contre le trafic de drogue, qui est un phénomène colossal en France, en Europe, partout dans le monde d'ailleurs, mais notamment chez nous, et qui va s'aggraver d'ailleurs avec le temps, parce que les narcos sont de plus en plus de moyens.
Il y a un fléau qui arrive, c'est le cannabis thaïlandais là, qui arrive, qui est en train de déferler sur le pays encore plus fort que les autres.
Tu vas voir, c'est sans fin. Donc effectivement, malheureusement, des dossiers de violences sexuelles dont on n'est pas sûr que ce soit établi, où les éléments sont peut-être pas hyper fournis, etc. Les gars les foutent sous le tapis. Moi, je pense que, en revanche, même si c'est cocasse, comme l'a dit Emmanuel, que Darmanin fasse son propre procès, je pense qu'il faut trouver des responsables. Il faut arrêter de diluer les responsabilités ou de se renvoyer. Alors là, il renvoie un peu la responsabilité, mais je pense qu'il faut identifier des responsables. Dans le cas de la petite Liana, il me semble qu'on a identifié des responsables. Je ne sais pas s'il
y a eu des mutations,
il y a une enquête, je sais pas quoi. Bon, il faut des responsables.
Il y a eu des suspensions.
Il y a un moment quand vous faites mal votre boulot. Moi, je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on puisse être viré. Je suis totalement contre l'emploi à vie dans la fonction publique. Je pense qu'on doit pouvoir être viré de la fonction publique quand on fait mal son travail. Pas seulement pour faute grave, etc. Tu fais mal ton travail, tu bosses pas assez, tu bosses pas bien, tu dégages. Il faut que ça change. Parce que sinon, tout ça végète aussi au bout d'un moment. Je pense qu'il a raison de chercher les responsables. Faut aller plus loin. Faut que Nunez s'y mette aussi. On verra. À mon avis, les responsabilités sont partagées entre magistrats et policiers.
Flora Gavali.
Les responsabilités sont partout parce que ce qu'a proposé Gérald Darmanin après la terrible affaire Liana, c'est d'ouvrir le capot de pourquoi les violences sexuelles sont pas traitées. et on regardait, on avait dit le chiffre au GG une fois, il aurait besoin de d'années et d'années pour regarder tous c'était les cas les 57, uns après les autres.
57 000, c'est ça, plein, c'était 57 000 affaires qu'il demandait à être traitées en urgence.
C'est colossal, et en fait, il est en train d'ouvrir, certainement qu'il est en train d'ouvrir le capot et de se dire, oh mon Dieu, c'est un problème systémique, colossal et monstrueux, dans le sens tentaculaire, avec plein de coupables, plein de responsables.
Mais il a fait pendant 4 ans, quand il a son bureau, un chef d'entreprise, ça c'est quand même un problème crucial. Pendant 4 ans, il vient à son bureau, il voit pas que les plaintes sont pas traitées.
Et il se dit, ah bah tiens, un des problèmes, c'est ça. Bah, je vais leur envoyer la patate chaude un peu dessus. Comme ça, à la fin de l'été, j'aurai quelque chose à dire. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas pour deux raisons. Pour trois raisons. La première, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il était ce responsable-là. C'est comme Bruno Le Maire qui vient de nous expliquer que la dette est colossale. Ça n'a aucun sens. C'est eux qui étaient aux affaires. La deuxième, c'est que on est sous une ère qui s'appelle le macronisme, qui termine, Dieu merci, dans 8 mois, et qui dure depuis bientôt 10 ans. Cette ère-là, elle a ce bilan-là, elle est comptable de ça. Donc on peut pas dénigrer un bilan quand on en a fait partie. La troisième raison, c'est que c'est pas en lançant les patates chaudes qu'il va régler le problème. C'est ce qu'on appelle en théorie, excusez-moi, de conduite du changement, le triangle de l'inaction. Vous mettez le ministère de l'Intérieur d'un bout du triangle, vous mettez son ministère à lui de la Justice à un autre bout du triangle, et vous mettez l'État à un autre bout du triangle. Et chacun dit non, c'est pas moi, c'est lui. Et donc en fait, on tourne dans le triangle, sauf que personne n'est en train d'agir. Donc ce qu'on demande aux gardes des Sceaux, c'est pas de nous dire comment fait son travail au ministère de l'Intérieur. Ce qu'on demande aux gardes des Sceaux, c'est d'agir pour la justice. Et il est pas en train de faire ça, c'est ça le problème. Et il est en train de faire un truc qui est très grave et qui a souvent lieu, c'est de faire des états des lieux. On a des politiques qui sont des journalistes en fait. On a des politiques qui font des bilans de ce qui sont des consultants. Ils nous expliquent ce qui se passe. C'est pas ça qu'on veut.
Mais ce qui est terrible dans cette histoire, parce que là, on parle du raisonnement politique, mais il faut se mettre à la place des gens aussi, des plaignants. C'est-à-dire que tu as des plaignants qui attendent, et tu es bien placé pour le savoir, Charles, qui d'un coup se disent, mais oui, attendez, on parle de dossier, tu sais l'expression de dossier fantôme, on parle aujourd'hui
de... Oui, dossier fantôme, ouais, c'est une dame qui est allée toute seule déposer sa plainte. Enfin, faut savoir de quoi on parle, oui.
C'est ça, et qui se dit, donc moi je suis un stock fantôme, je suis une plainte fantôme, une plainte qui n'est pas traitée. Alors, on parle d'une femme qui a subi des violences sexuelles, on peut parler aussi d'enfants, et d'un coup, on se dit, mais bon Dieu, j'attends depuis des mois, depuis des semaines, et alors, là où Flora a raison, c'est que toi, t'as ton avocat, tu t'en prends à ton avocat, tu engueules ton avocat en disant, et lui-même, ensuite derrière, le policier dit, c'est pas moi, je suis débordé, monsieur, je peux pas faire, je peux pas en faire plus.
Quand on est à trop de droits de la défense, et il y a trop de juges rouges. Voilà, déjà, moins de droits de la défense, ça va avancer.
Non, parce que le sujet, c'est déjà que avant que la plainte soit examinée par un juge rouge et que les droits de la défense puissent s'exercer, il faut déjà qu'elle soit instruite, que ce soit par le parquet ou par un juge d'instruction si c'est une affaire
c'est
plus grave.
Mais c'est trop compliqué tout ça.
Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand on est avocat et qu'on assiste un plaignant, la question principale qu'on se pose, vraiment, c'est, tiens, comment je vais faire pour intéresser le parquet? Il faut que ça intéresse le parquet. Ouais. Donc, on mâche beaucoup le travail si on le peut, si on a des éléments, ou alors on y va d'hyperbole, si vous voulez, on met les choses en gras, en grand, et vous avez des dossiers. Moi, je connais même, par exemple, des dossiers dans lesquels il y a des préjudices en millions d'euros, des détournements, des escroqueries, des sommes très importantes, ça n'intéresse pour autant pas particulièrement le parquet. En revanche, alors, si t'es acteur de cinéma ou homme politique, là, t'es sûr, ils sont 25 pour te perquisitionner, il y a 4 juges saisis pour t'auditionner, ça finit en autre boudin, mais c'est pas grave, c'est comme c'est médiatisé, là, il y a du monde. Donc parfois, d'ailleurs, on médiatise des affaires dans l'unique but de mettre en branle la machine judiciaire. Donc, faut qu'elle fasse aussi son autocritique. Il a raison. Il a raison. C'est son bilan. Mais bon, Darmanin, de chercher des responsables dans la police, il y en a beaucoup dans la justice. Il faut qu'ils fassent leur autocritique. Comment ça se fait qu'il y ait autant de trous dans la raquette? Moi, ma conviction personnelle, ça fait maintenant longtemps, hélas, que je suis avocat. J'ai prêté serment en 2018. Donc, ça remonte déjà. Ma conviction, c'est qu'il n'y a, pas de, voilà, je sais pas compter. Il n'y a pas de système judiciaire en France. Faut dire la vérité aux gens. Il n'y a pas de justice en France. Il n'y a pas de service public de la justice. Quand vous avez une affaire civile, c'est des années de procédure. Ça ne fonctionne pas. Quand vous avez une affaire pénale, c'est pareil, ça peut s'enliser. Il n'y a pas de service public de la justice. On est au niveau d'un pays sous-développé. Si l'hôpital fonctionnait comme la justice...
il fonctionne. Comment ça fonctionne?
Les gens crèveraient dans les couloirs.
Les couloirs de l'hôpital, je signale Charles. On en parle.
La canicule, il faut aller voir.
L'hôpital, comme c'est quand même vital, on remet quand même parfois un petit coup d'efficacité, puis les internes sont tellement dévoués, etc. Honnêtement, il n'y a pas de service public de la justice.
Les policiers sont dévoués aussi. Ils te disent eux-mêmes, on est débordés. Parce que toutes les plaintes que l'on reçoit, chacun a une bonne raison de venir au commissariat ou de porter plainte en ligne. Ce qui est désespérant aujourd'hui, c'est de voir que ce n'est pas traité, ou que ça prend des semaines, ou que ça prend des mois. Et toi, que ne serait-ce que si on t'a volé ton portable, ou a fortiori si en plus tu as été agressé sexuellement, ou tes enfants ont été agressés sexuellement, tu es là dans l'attente. Et puis derrière, on dit, vous faites partie des 57 000 qui ne sont pas traités, ou des 1275 procédures.
C'est un peu caricatural,
c'est une réalité.
Ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de juges qui, au lieu de défendre la société, en veulent à la société, parce que ce sont des crypto-marxistes. Alors ils classent sans suite, tout est classé sans suite, sauf le crime raciste. Ce qui est d'ailleurs normal qu'ils ne soient pas classés sans suite. Mais ils ont l'esprit tordu, la justice n'est pas exercée, je rejoins Consigny.
On a posé la question justement là pendant les 10 minutes qu'on en a discuté. Est-ce qu'à votre avis les policiers sont responsables aujourd'hui? Vous dites non à 58%. C'est pas aux policiers qu'il faut s'en prendre dans cette histoire. Les policiers, tiens, ils vont être mis à contribution parce que sur Paris et l'Île-de-France, les trottinettes, ces casques et gilets fluo qui deviennent obligatoires. Est-ce qu'il faut l'étendre à travers toute la France, cette mesure? Sinon, c'est une amende derrière. Hein. 32-16 pour en parler avec les Gigi, avec les Grandes Gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
RMC, RMC Story, les Grandes Gueules sont avec vous. C'est le retour du direct à la radio et à la télé. Charles Consigny, Florent Yebali, Emmanuel Devilliers, vous prenez la parole au 32-16 pour parler des trottinettes, casques et gilets fluo qui deviennent obligatoires à Paris en petite couronne. Est-ce qu'il faut l'élargir à travers tout le territoire? Vous venez en discuter avec nous.
Donc rendre le port du casque obligatoire. Lorsqu'une trottinette part en avant, naturellement le trottinettiste va tomber sur le crâne, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il se prend aussi la barre de la trottinette dans la poitrine et sur le menton. Donc les traumatismes sont beaucoup plus importants que ce que l'on veut bien dire. Les derniers chiffres sont absolument épouvantables. On est passé de 10 morts en 2019 à 80 morts en 2025. Il faut être beaucoup plus sévère au niveau des amendes et puis surtout les faire respecter.
Alors, il faut reconnaître que ce que l'on appelle les mobilités douces, les engins qui vous permettent de vous déplacer hors voiture, se sont multipliés, en particulier les trottinettes, on le voit tous. Donc, la mesure, elle était déjà mise en place depuis plusieurs jours dans les Hauts-de-Seine et en Seine-et-Marne. Pour tous ceux qui ont les gyro-roues, vous voyez ce que c'est la gyro-roue? Vous savez, c'est la roue unique et puis vous avez des cale-pieds sur le côté et... Les types passent comme des bombes, d'ailleurs, avec ça. Il y a la gyro-roue, trottinette électrique, le skate électrique. Désormais, c'est pour Paris et toute la petite couronne. C'est jusqu'à 135 euros. Est-ce qu'il faut l'étendre partout en France? 32-16 pour en parler avec les GG Charles Consigny.
Alors, je ne vous surprendrai pas. Je pense que c'est une connerie sans nom. Ça m'accable, si vous voulez, les gens qui portent ce genre de mesures et qui, je me demande de qui est-ce la décision d'ailleurs. Est-ce que c'est le gouvernement?
Oui, bien sûr.
Bon, j'aimerais remonter. Si c'est Tabarot, par exemple, qui est le ministre des Transports, qui prend cette décision, ça me déçoit de lui.
C'est le ministre de l'Intérieur.
C'est Nunez. Laurent Nunez, s'il nous écoute, il faut qu'il revienne sur cette connerie. Faut arrêter de faire chier les gens.
C'est une question de sécurité.
Question de sécurité. Restons tous chez nous, dans ce cas-là. Tu sors dans la rue, ta sécurité est en péril. Tu sors dans la rue, ta sécurité est en péril. Je suis désolé, tu te baignes dans la mer, ta sécurité est en péril. Tu peux te prendre un bateau, un truc. À tout moment, ta sécurité est en péril. Faut arrêter. On voit très bien qu'est-ce qui va se passer. On commence par faire ça sur les trottinettistes. Alors déjà, il y en a moins qu'avant, puisqu'on a même interdit les trottinettes de location à Paris. C'était un moyen formidable de survivre au hidalguisme. Et ça, évidemment, elle l'a supprimé aussi. Donc les gens sont en vélo. Bientôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va obliger les cyclistes, évidemment, à porter eux aussi un casque. Tu verras, dans moins de 5 ans.
Le casque, il est recommandé.
Voilà, il est recommandé.
Et le gilet fluo, il est obligatoire le soir. Voilà.
Sur les vélos.
Si je me souviens bien. Ouais.
Bon, voilà. Donc, deuxième connerie, j'ignorais. Mais tu verras que maintenant, ça va être donc casque, gilet. Et très bientôt, ça va arriver, parce qu'il faut bien ramasser du pognon, l'immatriculation du vélo. Ça va arriver très très vite. Qu'est-ce que ça va permettre? Les caméras, les pieuvres qu'il y a partout dans Paris vont flasher toute la journée et vont massacrer financièrement les pauvres cyclistes qui vont se retrouver effectivement à devoir respecter au micro-millimètre le code de la route, ce qui fait qu'il n'y aura plus de bénéfices en réalité à avoir un vélo. Moi, je conduis encore un scooter dans Paris. Là, j'ai passé une semaine loin de Paris, je rentre, j'ouvre ma boîte aux lettres, qu'est-ce que j'ai? 3 amendes. Voilà, 3 amendes des jours précédents, je vais bosser, il y a un truc, je ne sais pas ce que je fais, de pas bien, etc. Clac, on est immédiatement sanctionné au portefeuille, en réalité, on est taxé. Et c'est ça qui va se passer.
Donc, c'est une machine à taxes qui vient d'être mise en place.
On va voir que petit à petit, ça va être ça. Et moi, je vais regarder. À titre personnel, je suis pour la liberté. Quand je serai chef de l'État, je supprimerai toutes ces conneries. Mon ministre des Transports, Emmanuel de Villiers, s'en chargera. On supprimera l'obligation du casque pour les trottinettes, l'obligation du gilet.
On foutra plein de morts sur le dos.
On foutra la paix aux cyclistes. J'aurai des morts sur le dos et je l'assumerai au nom de la liberté. Et je pense que c'est un principe qui doit retrouver des couleurs en France.
Alors, pour quand tu es sur une trottinette, interdiction des casques audio, sinon c'est 35 euros.
J'autoriserai les casques audio.
Interdiction de transporter passagers, 35 euros. L'assurance, bien sûr, obligatoire. Le casque, ça monte jusqu'à 135 euros.
Je n'obligerai pas à l'assurance.
Flora.
Moi, je suis cycliste à Paris et j'ai eu un quasi-accident il y a 15 jours où j'ai eu très, très peur parce qu'il y a eu un vélo, une voiture et moi qui avons failli nous rentrer tous les trois dedans. Et je pense que la voiture s'étant arrêtée à 1 centimètre de moi, c'était trop tard, j'aurais été très blessée, très 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 blessée. Et l'autre vélo aussi. Tout le monde était un peu en tort, c'était pas clair. Moi, je suis ravie de pouvoir faire du vélo à Paris parce que effectivement, quand on est cycliste, on se rend compte que cette ville est pas si grande et qu'on peut assez vite aller. Moi, par exemple, mon travail fait que j'ai des rendez-vous, des obligations professionnelles à l'est, à l'ouest de la ville. Donc, c'est vrai que pour se déplacer la journée, c'est le moyen de transport le plus rapide. Ceci étant dit, j'ai pas envie de perdre la vie parce que j'ai gagné un quart d'heure pour aller au travail. Donc, je suis pour qu'on intensifie surtout sur les vélos. Par exemple, ils ont mis en place des feux rouges pour vélos, des feux rouges spéciaux. C'est pas les feux rouges des voitures, c'est des feux rouges pour les vélos. Il n'y a pas. J'essaye de m'arrêter quand il y a 15 vélos qui s'arrêtent pas. C'est difficile de se dire, moi je patiente et eux ils avancent. Donc, je suis pour qu'il y ait le code de la route. C'est pas non plus le bagne. C'est juste des règles qui font qu'on peut vivre ensemble et qu'on va pas se tuer. En fait, moi aussi, je suis pour la liberté, le plaisir de flâner bourré à 4 heures du matin en trottinette, en rentrant de boîte de nuit.
C'est pas ça.
On a tous envie de ces moments de
liberté, c'est pas de faire n'importe quoi non plus.
Voilà. C'est pas de faire n'importe quoi non plus. Et en fait, à partir du moment où
flâner bourré en trottinette.
Moi, j'ai une amie qui s'est casser la jambe de la cheville tout en haut. Elle a passé un an vraiment dans une difficulté.
Si elle avait
terrible,
eu son casque, ça aurait tout changé.
Dans une difficulté terrible, on n'a pas envie de vivre ça. Et pire encore, il y a 90 morts en trottinette.
Tant que tu n'as pas
un proche qui est mort d'un accident de vélo.
Mais ceux qui le souhaitent,
c'est hallucinant de vouloir protéger la sécurité des gens.
Mais il faut arrêter
gens.
De faire chier le monde, Flora, c'est tout. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent mettre un casque, libre à eux.
Non, c'est ce que j'en ai.
Plein des cyclistes avec des casques. D'ailleurs, les cyclistes à casque sont souvent les plus... J'ai très bien écouté. Les cyclistes avec des casques sont souvent les plus agressifs sur la route. Très souvent, le père de famille avec son casque et son gilet, c'est celui qui terrorise tout le monde. T'es forcément fautif par rapport à lui. Moi, je me prends très souvent la tête avec des connards de cyclistes à casque. Mais libre à eux de mettre leur putain de casque. Et libre aux gens qui utilisent des trottinettes de mettre leur casque.
Ça veut dire que toi, en scooter, tu aimerais ne pas mettre de casque ?
J'aimerais que ce soit pas obligatoire. Mais j'en mettrais un. Ah bah voilà. Par exemple.
Alors, dans les joies des grandes
villes, j'en mettrais un. Oui, mais pourquoi il en mettrait un ? Parce qu'il a grandi dans une société où c'était obligatoire. Et donc il a conscience. Attends,
tu vas en Grèce. Le casque n'est pas obligatoire. J'en mets un quand même.
Tu as grandi dans une société où le casque était obligatoire, et donc ça te paraît naturel de voir un homme sur un scooter porter un casque. Si t'avais grandi en Thaïlande ou je sais pas où, en Asie, il y a plein de pays où c'est pas obligatoire, ce serait pas naturel pour toi. Donc aujourd'hui tu dis j'aurais un scooter, mais j'achèterais quand même un casque. Tu dirais pas ça si t'avais pareil, grandi dans un pays où c'est pas obligatoire.
Dans les joies des grandes gueules, il y a le fait sur des sujets de ce type, de pouvoir avoir des avis différents et nuancés malgré l'amitié et le respect que nous avons les uns pour les autres. Je suis pas d'accord avec Charles. Je pense que le gilet, il est fait pour être vu. C'est quand même important parce qu'il y a tous ces ébulons qui ont à toute vitesse. C'est quand même inconséquent. Et le casque, c'est un minimum de protection au niveau de la boîte crânienne qui est tout de suite un risque majeur.
Mais libre aux gens de s'équiper. Oui, mais regarde, on est obligé de mettre des gants en scooter. C'est emmerdant.
Pour les vélos en agglomération, je pense que c'est sensiblement justifié aussi. Mais moi qui fais beaucoup de vélos électriques, vraiment très intensément, et en prenant mes risques, comme tu le dis, c'est sans casque, éventuellement avec un gilet si c'est à la nuit tombée, je considère qu'en pays rural, il faut pas obliger tout ça. Mais en monde urbain, compte tenu des risques, on a eu une anecdote avec
Ça va devenir impossible de vivre en ville avec
tout Vincent, bonjour Vincent.
Déjà d'ailleurs.
Vincent, oui, vous vouliez réagir parce que vous avez eu deux accidents, vous, avec votre trottinette.
Oui.
Et le casque et le gilet, ça changerait rien?
Bah non. Je vais juste vous dire que je suis très heureux de vous avoir à l'antenne parce que les GG, c'est vraiment l'émission que j'écoute tout le temps.
Merci.
Et d'ailleurs, il faut arrêter les deux semaines où vous mettez des rediffs. Enfin, nous, on veut toute la semaine, toute l'année. On veut toujours.
Je sais.
Déjà, on bosse en
C'est ce qu'on faisait avant. On était tout le temps en direct.
On n'est pas nombreux à être à l'antenne le 10 août.
Allez-y, Vincent.
Et un énorme bisou à Charles que j'adore énormément.
Merci beaucoup, Vincent.
Bon, pour en revenir au fait, moi j'ai eu deux accidents en trottinette, dont un assez grave où j'ai dû avoir de la rééducation pendant 8 mois. Je suis tombé sur l'épaule et la tête et j'avais mon casque. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un piéton qui a grillé, qui a traversé pendant que c'était feu vert. Et j'étais focus sur l'état de la route, la chaussée parisienne qui était extraordinaire, à éviter plusieurs nids de poules et je l'ai pas vu. Donc au dernier moment, j'ai basculé, il a traversé et je suis tombé. Pour l'anecdote, il n'y a personne qui m'a aidé à me relever. Hein. Ma trottinette a été cassée en deux. Et en fait, j'ai cherché le responsable. Il est parti. En gros,
il s'est pas
j'aurais
soucié
jamais
de vous,
eu l'accident. Comment ?
Il ne s'est pas soucié de vous, en plus.
Ah, pas du tout. Je pense qu'il m'a vu. Il a dû se dire, je vais avoir un problème si je vais l'aider. Donc, autant partir tout de suite. Cet accident a été causé par quelqu'un qui n'a pas respecté la circulation.
Vous avez tapé la tête ou pas ?
Alors oui, j'ai tapé la tête. Heureusement, j'avais mon casque.
Ah, donc.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que le casque, pour moi, c'est important parce que c'est comme en vélo. Si on tombe sur la tête, on meurt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, le gilet jaune, je pense que ça ne change rien parce que les gens sont totalement focus dans ce qu'ils font dans leur vie. Ils sont sur leur téléphone, ils traversent quand c'est vert, ils jouent au football sur le trottoir. Moi, plusieurs fois, j'ai évité des ballons alors que je roulais pas spécialement vite ou quoi. Mais en fait, on est tous un peu focus sur nous-mêmes. Et quand on veut regarder les autres, on les voit pas. Donc, avoir un gilet jaune, c'est comme pendant un temps, ils ont voulu le mettre pour les motards. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années. C'est pas passé, je crois. En fait, ça sert à rien. Il faut juste faire attention aux autres.
Avant la route et la chaussée, c'était simple. Vous aviez les voitures, tout petit peu de vélo, quelques motos.
Et
vous aviez les piétons, mais sauf qu'aujourd'hui, vous avez les voitures, les piétons, les gyro-roues, les trottinettes, les vélos, les scooters et autres engins. Et il faut que tout ce beau monde cohabite. Donc, Vincent, on verra comment ça se passe. on va voir s'il y a beaucoup d'amendes, comme le dit Charles, si c'est la machine à raquettes qui va se mettre en place.
Encore, mais
est-ce qu'il faut étendre la mesure à travers toute la France? Oui ou non? On a posé la question, à vite regarder la consultation. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, est-ce qu'on a la consulte, les amis? Oui, à 80%, vous dites. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
Les gens sont 9h midi. Les grandes gueules.